quelques points. Si jamais vous étiez amené à quitter, ayant eu l'intention dès le départ de venir sur la demi-journée, vous aurez noté que dans le document qui vous a été remis à l'accueil, il y a un questionnaire d'évaluation. Donc je vous remercierai de bien vouloir le remplir. Ça permet de faire fonctionner l'association Alter, enfin, l'agence Alter avec des données fiables pour l'organisation des futurs rendez-vous. Donc merci de bien vouloir remplir ce questionnaire avant de nous quitter, quel que soit le moment. Donc vous nous quittez, sachant qu'il y aura plein de choses très intéressantes. L'après-midi avec les ateliers qui nous rassemblent, avec la restitution suite aux ateliers, puisque naturellement on ne peut pas suivre tous les ateliers. Et puis avec la table ronde qui va nous intéresser et nous permettre d'échanger à partir de 11h. Mais avant tout ça, une conférence, on pensait que c'était utile et intéressant de planter le décor sur cette thématique où sont les richesses avec quelqu'un qui se penche sur la question depuis longtemps. C'est Philippe Frémaux, économiste et éditorialiste à Alternative Économique, qui se penche effectivement, sur ces questions depuis longtemps, et se pose la question, comme on a dit, des alternatives économiques. Et on a un focus un peu plus précis ce matin avec Philippe Frémaux, c'est pourquoi devons-nous repenser notre économie et nos modes de vie? Beaucoup de choses ont changé dans la société. Est-ce que la façon d'apprécier la société a évolué au même rythme? Rien n'est moins sûr, et nous allons vous entendre sur ce sujet pendant une demi-heure, 35 minutes. Donc, 30 minutes officiellement. Comment ça dit? Une heure. Allez. 50 minutes.
Bon. C'est ça, vous avez l'écologie, c'est toujours un peu lourd. Bon, donc, j'ai bien peur d'être amené à enfoncer beaucoup de portes ouvertes, vu la qualité du public qui est là aujourd'hui. Et ça permet au moins de savoir sur quoi on est d'accord. Et d'autant plus que j'étais un peu terrorisé en écoutant successivement Jean-Patrick Masson, Dominique Lapôtre, du Soulage, en disant qu'ils sont en train de dire tout ce que j'ai l'intention de dire dans ma propre intervention. Donc c'était à la fois rassurant, en même temps pour les conférenciers, toujours un peu vexant. Je pense qu'on va être le premier à dire que la situation dans laquelle nous sommes est insoutenable. Alors, il faut rappeler quand même un certain nombre d'éléments, qui est que, de fait, ce que nous avons vécu au cours des deux derniers siècles est historiquement quelque chose d'absolument incroyable à la mesure de l'échelle humaine, au point qu'on a pu dire qu'on était rentré dans une nouvelle ère désigné du bon nom d'anthropocène, en voyant à l'homme comme facteur principal d'anthropose, de transformation de la nature, puisque la croissance économique que nous avons connue, telle qu'on la mesure avec les indicateurs économiques courants, si on renvoie aussi à des indicateurs quantitatifs, a été totalement sans précédent à l'échelle de l'histoire. À la fois au sens que des indicateurs objectifs comme l'espérance de vie, le taux d'accès à l'éducation se sont améliorés de manière spectaculaire, notamment dans les pays riches, mais que dans le même temps, alors qu'en 1900 on consacrait en gros 160 000 heures au travail dans sa vie active, aujourd'hui on n'en consacre que 60 000, c'est-à-dire qu'on a réussi à travailler beaucoup moins, tout en consommant des quantités de biens absolument sans commune mesure avec ce qui était consommé à la même époque. Donc, tous ces éléments font une équation qui a été largement vécue dans la conscience collective comme l'expression du progrès économique. Et c'est d'autant plus vécu comme un progrès économique que, de fait, aujourd'hui, on s'inquiète du fait que ce mouvement s'est arrêté, qui pourrait s'arrêter encore plus pour l'avenir, et que donc on est là à dire, est-ce que nos enfants vont vivre moins bien que ce qu'on a vécu nous? Est-ce qu'on est condamné, de fait, à aller vers une situation qui ferait se dégrader la qualité de notre vie? Alors, l'autre chose qui me paraît tout de suite importante de dire d'entrée, c'est que la vision qu'on a dans le pays est une vision qui est largement évitée du fait qu'au cours des 30 dernières années, la croissance s'est fortement ralentie, sans pour autant avoir cessé, puisque même à 1-2% par an, elle reste incomparablement supérieure à ce qu'a été le trend historique en la période d'avant la révolution industrielle. Mais cette croissance s'est ralentie et, pour des raisons de régulation économique parfaite, elle s'est accompagnée d'un développement du chômage de masse et d'une montée des inégalités, notamment dans les pays développés. Mais dans le même temps, à l'échelle de la planète tout entière, la croissance n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, dans ces 30 dernières années, du fait de l'accès au rattrapage et à une croissance économique rapide des pays émergents, et notamment des deux pays les plus peuplés de la planète, à commencer par la Chine, et dans une moindre mesure, de l'Inde. Le résultat, c'est qu'au cours des dernières décennies, la croissance du PIB à l'échelle de la planète entière a été de l'ordre de 4% par an, ce qui est absolument sans précédent historique. Alors, est-ce que c'est un mouvement qui peut continuer ? La vérité, c'est qu'on sait bien que ce mouvement, cette croissance, s'est faite en grande partie à crédit, c'est-à-dire en consommant un stock de ressources accumulées au fil des millions d'années, des milliards d'années qui ont précédé, notamment pour tout ce qui concerne les énergies fossiles, mais aussi en faisant dans le stock de toutes les matières premières naturelles, et avec un rythme d'exploitation de ressources renouvelables qui met en cause leur capacité précisément à être renouvelée. Alors, vous connaissez ça aussi bien que moi, vous savez très bien qu'aussitôt on regarde statistique par statistique la qualité des terres arables, l'état des ressources halieutiques, l'état des forêts, la diffusion de polluants toxiques qui sont disséminés avec des effets qu'on ne maîtrise pas encore et insatisfaisants, la dégradation du cycle de l'eau et donc de ressources en eau. Tout cela nous montre que la pression sur les ressources entraînées par le mode de vie et de consommation, loin de se réduire, s'est constamment aggravée au cours des dernières années, en dépit de tous les discours et de la création de multiples organismes bienveillants comme la Terre Bourgogne. Donc, la consommation d'énergie par habitant, par exemple, pour prendre ne serait-ce que ce critère, est passée de 1,3 tonnes d'équivalent pétrole par habitant en 1972. À 1,8 million en 2009. C'est les dernières statistiques agrégées qu'on a à l'échelle mondiale. Or, la population mondiale, dans le même temps, est passée de 3 milliards en 1960 et on a dépassé les 7 milliards en 2011. C'est-à-dire qu'on a une population qui a plus de doublé alors que chaque habitant en moyenne consomme 40% de plus. On n'a pas besoin d'être un as en arithmétique pour comprendre que, évidemment, la consommation d'énergie par tête, la consommation d'énergie par tête globale de l'humanité s'est accrue de manière à peu près un ratio de 3. Et donc, évidemment, les émissions de CO2 suivent cette piste-là. Les optimistes, ceux qui vous disent « vous inquiétez pas, business as usual », vous disent « ah mais l'intensité énergétique du PIB s'est fantastiquement améliorée, c'est-à-dire que pour produire une même unité de PIB, on a besoin aujourd'hui de beaucoup moins d'énergie que ça n'était le cas il y a 10, 20 ou 30 ans. Mais comme dans le même temps, la croissance est demeurée soutenue, la population s'est accrue, etc., les consommations énergétiques ont continué à progresser, et donc on est passé de 4,8 tonnes par habitant en 2008, on a atteint pratiquement 5 tonnes aujourd'hui hein, par habitant, alors qu'on était à 3 tonnes 11 en 1960. Et donc 3 à 5 en l'espace de 40 ans, avec une population qui double. Donc là, c'est pareil, on a pratiquement une multiplication par 3,8 des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Alors, le paradoxe, mais ça a déjà été, ça n'a pas été dit, mais on nous a juste présenté, mais ça c'est le côté DRIR, l'alternative en termes de gaz de schiste, mais la réalité aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas les pénuries de ressources, notamment dans le domaine énergétique. Le problème, c'est l'abondance des ressources. Parce que l'abondance des ressources est telle que le prix de l'énergie est bas. La surexploitation du gaz de schiste, qui fait que d'ailleurs même sur le marché américain, il est d'ailleurs à un prix qui est inférieur à son coût de production, fait que le prix par exemple, du charbon aux États-Unis a tellement baissé que du coup, les exploitants de charbon, comme le gaz ne peut pas, pour des raisons terminaux de liquéfaction, etc., inexistants pour l'instant, est exporté, de fait, c'est le charbon qui est exporté massivement. Et du coup, en Allemagne, comme le charbon est beaucoup moins cher que le gaz, le gaz européen reste à un prix élevé, l'Allemagne s'est remis à produire son électricité avec du charbon, dans un contexte de sortie du nucléaire et de montée en puissance des renouvelables, mais pas à un niveau tel que ça permet de se dispenser d'une production alternative aux renouvelables. Et le résultat, c'est qu'en 2013, les émissions de CO2 de l'Allemagne pour sa production thermique vont croître de nouveau de manière importante, entraînant une croissance des émissions globales de l'Allemagne. Donc, on est dans une situation paradoxale où, de fait, on est dans un contexte où le prix même des matières premières énergétiques nous encourage plutôt à continuer à aller dans le mur, alors que la crainte, il y a encore quelques années, était plutôt les pénuries de pétrole. Alors, la vérité, on peut avoir les uns et l'autre, mais donc, pour l'instant, on est plutôt dans la situation où le problème est plutôt le trop bas prix des énergies. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la question auquel et qui explique la montée de la préoccupation écologique, c'est qu'une grande partie de l'opinion, de la population, des décideurs, en tout cas, sont d'accord pour dire que on risque dans une situation où Malthus, qui a eu tort pendant deux siècles, en nous promettant que la croissance exponentielle de la population provoquerait des famines, puisqu'on avait une croissance linéaire de la production, alors que c'est l'inverse qu'on a constaté. On a eu une croissance exponentielle de la production et une croissance de la population qui a plutôt été logistique avec la transition démographique. Et donc, Malthus a eu tort pendant deux siècles, et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est s'il ne va pas finir par avoir raison. Et c'est ce qui explique le fait qu'on a eu une montée en opinion, je pense, depuis 1972 et le rapport Meadows, moi, à l'époque où j'avais encore des cheveux, de multiples réunions, colloques, entre la conférence de Rio de 91, qui a mis la question du développement durable sur l'agenda international. Il y a eu des choses qui ont été adoptées, je pense. Le protocole de Montréal qui a permis d'éradiquer les CFC avec leurs effets sur l'effet de serre. Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont mis en place des agendas 21 avec des résultats qui peuvent être hétérogènes d'une collectivité à l'autre. Et puis, on a même des villes qui ont des collectivités qui s'engagent dans un programme beaucoup plus volontariste. Je pense par exemple à l'association des villes en transition. Mais quand on fait le cumul de tout et qu'on regarde les chiffres globaux, la vérité, c'est qu'on continue de foncer dans le mur à grande vitesse. Et donc, je le rappelle, Malthus pourrait bien finir par avoir raison. Alors, les raisons qui font qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire sont multiples. Les raisons sont multiples. Ce n'est pas seulement une question de gagner, d'être convaincant et de donner les bons chiffres ou d'avoir les bonnes méthodes, ce dont on va discuter toute la journée après. Il y a quand même des facteurs de résistance sociale, économique, des intérêts en jeu, qui sont colossaux, et qui sont colossaux parce qu'il n'y a pas seulement une minorité de méchants. On est tous dans une situation contradictoire par rapport à ces questions. C'est que, je vois bien comment les médias peuvent faire le lundi une émission catastrophisante sur l'échec, je me souviens en tête, parce que c'était spectaculaire, du sommet de Copenhague, et puis cet échec, dès le lendemain, ils faisaient une émission sur les enjeux du développement de la Formule 1. Donc, vous voyez, culturellement, c'est pas exactement, mais on passe, on zappe, on passe d'un sujet à l'autre. Donc, la conscience collective va de grands mouvements d'indignation à un retour très rapide au business as usual. Bon. Alors, on peut lister, en fait, en gros, cinq grands facteurs qu'il faut qu'on fasse rien. Il y a un premier facteur qui tient évidemment aux intérêts des entreprises dans une économie marquée par la concurrence, le libre-échange, et où la condition de la survie, quand vous dirigez une entreprise, et je peux vous en parler, c'est d'abord de croire ou de mourir, très souvent. Parce que c'est comme ça que vous arrivez à avoir un meilleur rapport de force avec vos fournisseurs, c'est comme ça que vous arrivez à convaincre vos clients que vous continuez à venir chez vous, etc. Donc, la sobriété entrepreneuriale volontaire, qui parfois caractérise les entreprises de l'économie sociale et solidaire, n'est pas une vertu dominante dans les sociétés de capitaux, et pas parce que seulement ils veulent accumuler des profits et qu'ils sont dans l'abstraction de devenir les maîtres du monde en devenant toujours plus riches, c'est aussi que la dynamique de la concurrence favorise cette chute en avant dans la croissance et dans l'accumulation. L'autre facteur, c'est qu'évidemment, les principaux alliés des patrons sont les salariés. Sont les salariés, puisque dans une société où l'accès aux revenus passe essentiellement par l'emploi, et où l'emploi passe essentiellement par la bonne santé de votre employeur, vous êtes évidemment intéressé à ce que votre entreprise prospère et croisse. Et on voit bien aujourd'hui à quel point la croissance devient extrêmement désirable quand elle est disparue. Et donc le caractère inaudible du discours critique aujourd'hui, du discours écologique en général, est totalement corrélé à la montée du chômage, à la montée du chômage de masse. On voit bien que, si vous vous souvenez quelques années en arrière, en 2008, quand on parlait de la crise, on parlait des émeutes de la faim, on parlait des problèmes du pétrole qui était passé à 150 euros le baril, etc. Et avec la crise financière, puis la crise économique, la crise de la dette qui s'ensuit, tout ça a disparu du panorama médiatique. Et maintenant, on parle uniquement de est-ce qu'on va avoir 1,2 ou 0,8 ou 1,5 de croissance en 2014 et 2015, à partir de quel niveau on peut faire baisser le chômage, etc. Donc, c'est un contexte. Il ne s'agit pas de dire ces imbéciles, ils ne voient pas les vrais problèmes de la planète. Ça, c'est facile à dire quand on est fonctionnaire, quand on est universitaire et qu'on sait que ça va tomber à la fin du mois. C'est-à-dire pour la grande majorité des gens aujourd'hui, c'est leur condition de vie, leur pouvoir d'achat. Et on peut dire qu'ils consomment plein de choses inutiles, ils consomment aussi ce que la norme sociale véhicule. Ça, c'est le troisième point. C'est que c'est clair que nous sommes d'abord, en tant qu'êtres humains, des êtres sociaux, des êtres culturels, et donc la consommation pour nous, c'est pas seulement quelque chose qui s'opposerait entre la satisfaction de besoins fondamentaux, qu'il s'agirait de satisfaire la merveilleuse société écologique et très emmerdante qu'on nous promet pour demain, et puis il y aurait des besoins superflus, méchants, imposés par le capitalisme, la publicité, le marketing, etc. La consommation par nature, quel que soit ce qu'on consomme, est un acte culturel. Dites-moi comment tu manges, dites-moi comment tu reçois tes amis chez toi, ce que tu leur donnes à bouffer. Et ça dit beaucoup de choses sur toi au-delà de la nécessité qu'on a de manger pour vivre. Donc, toute la question est d'arriver à conserver cette dimension, de dire on achète aussi des vêtements, pas seulement pour avoir chaud, aussi pour s'affirmer, pour séduire, etc. Conserver cette dimension de plaisir, conserver cette dimension qui passe effectivement par la consommation, sans en avoir honte, mais effectivement arriver à consommer de manière plus responsable, supprimer des consommations ostentatoires qui ont uniquement pour but d'affirmer son pouvoir, sa richesse par rapport aux autres. Et donc, on est dans une logique qui n'est pas la logique du tout ou rien, mais qui est forcément dans la logique du compromis et de la lutte contre la démesure actuelle qu'a pris la consommation ostentatoire, la consommation de luxe avec l'explosion des inégalités, sans pour autant considérer que l'avenir de l'humanité, c'est d'être plus en uniforme dans des vêtements basiques, en habitant dans le logement socialiste de base optimal, etc. Mais vous regardez, voilà, une partie du discours écolo peut être perçue comme un discours potentiellement totalitaire, et il est important, si on veut gagner la bataille de l'opinion, de le porter au contraire comme un discours de liberté, comme un discours de progrès, comme un discours de plaisir, comme un discours qui peut satisfaire nos désirs et qui les satisferont d'autant plus que les désirs de tous seront satisfaits. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bon ça. Alors, en écoutant, je suis d'accord avec moi. Bon, ceux qui disent qu'il y a un narcissisme excessif peuvent le penser aussi. Bon. Alors, il y a un autre facteur qui est beaucoup plus problématique, qui est le fait qu'on n'a pas un maître du monde bienveillant qui s'occupe de nous. La société internationale est une société faite d'États qui sont en concurrence aussi les uns avec les autres. Ces États n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même responsabilité dans l'accumulation de gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui. On voit bien la très grande difficulté qu'on a à avoir un accord global sur le climat, qui tient au fait que les émergents ont le droit de dire la situation actuelle est d'abord liée à tout ce que vous avez accumulé dans le passé dans les pays les plus riches, et donc nous on a le droit de polluer à notre tour. On ne voit pas pourquoi nous, Chinois, on n'aurait pas le droit d'avoir aussi un milliard de voitures. Or, je me souviens d'écrire dans l'Alternative économique il y a 30 ans, le jour où les Chinois vivront comme les Américains, c'est l'empreinte écologique de la planète, ça ne va pas être 1,5, mais on va passer à 4, et donc on est dans cette situation où tout va bien. Donc, on a un vrai problème de compromis à trouver, et il va de soi que dans cette situation, les pays riches ont une responsabilité historique majeure, puisque c'est évidemment à eux de donner le bon exemple. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas dire, comme ça a été le cas dans le cadre du protocole de Kyoto, désormais, c'est à nous de faire tout l'effort. Parce que dans le même temps, la Chine même s'ils ont l'excuse d'être très nombreux, la Chine est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui, avec 40%, 50% d'émissions en plus que les États-Unis. Évidemment, par tête de Chinois, ils ont beaucoup de progrès à faire pour atteindre ne serait-ce que le niveau français. Mais le résultat en termes de cumul de CO2 émis sur l'ensemble de la planète, il est quand même là. Donc, eux-mêmes, d'ailleurs, sont conscients du fait qu'ils doivent absolument verdir leur modèle de croissance, mais voilà, c'est tout en continuant à croître à 8% par an. Donc, chercher l'erreur. Alors, l'autre facteur problématique dans l'inégalité des États, c'est que dans un contexte où les ressources se raréfient et où les dirigeants sont conscients du fait qu'on va se heurter au mur de la pénurie, la course à la croissance devient d'autant plus nécessaire. Elle devient d'autant plus nécessaire parce que la croissance, et ça c'est ce que j'essaie de m'expliquer, d'expliquer à mes amis du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, et à mon ami Jean Gadret, c'est très bien d'expliquer qu'on pourrait vivre dans une société bien meilleure en France, mais la réalité, vu du point de vue des décideurs, du point de vue des gens qui ont le pouvoir, des gens politiques, c'est que la course à la croissance, c'est aussi le support de la puissance. Et quand il faudra se battre pour avoir les dernières gouttes de pétrole du Proche-Orient, c'est celui qui aura les plus gros porte-avions qui récupérera les dernières gouttes de pétrole. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se bat pour être capable de produire les porte-avions les plus modernes. Et ça, ça passe par la poursuite de l'accumulation. Donc le paradoxe, c'est que les dégâts que provoque la croissance nous incitent dramatiquement justement à poursuivre la croissance pour essayer de se prémunir pour une collectivité des dégâts que ça va provoquer. Et donc, il va de soi que ce qu'on peut en déduire quand on n'est pas dans une situation d'apologie de cette situation, c'est que tout ce qui va dans le sens, non pas d'un repli autarcique sur la communauté nationale, mais de mesures qui augmentent la résilience de notre société, et notamment la moindre dépendance à l'égard des ressources qui viennent de l'extérieur, est à la fois un facteur de paix sociale, mais c'est un facteur de paix tout court. Parce que les enjeux, là, ne sont pas des enjeux techniques, ce n'est pas des enjeux écologiques, c'est des enjeux géostratégiques, et qui nous annoncent les guerres de demain. Donc, je ne veux pas avoir l'air de dramatiser. C'est vrai que j'ai enseigné un temps les relations internationales à Sciences Po, et je veux dire, c'est vrai que c'est des questions qui, aujourd'hui, sont sur l'agenda des interrogations de ceux qui pensent la stratégie pour les grands États, dans les écoles de guerre, etc. Il faut éviter que les scénarios qui s'étudient un jour soient concrétisés. Et puis le dernier facteur, évidemment, mais ça vous connaissez par cœur, c'est l'horizon temporel des décideurs. L'horizon temporel des décideurs, notamment de la décision politique. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez des élections de mid-term tous les deux ans, puis ensuite des élections présidentielles, etc. Ça n'incite pas à prendre des mesures qui ont des effets à 15 ans. Déjà, arriver à réformer le système éducatif, trois jours après les résultats de l'enquête PISA, ça demande un effort fantastique. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune Payon qui essaye d'améliorer la qualité de l'école primaire et de l'école maternelle en France. Et on sait bien que l'enquête PISA est faite à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que les gamins qui rentrent aujourd'hui à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, c'est dans 12 ans qu'éventuellement on verra les effets des politiques qui sont menées aujourd'hui. Sachant qu'il faut au moins 3 ans pour que ça se mette à peu près en place. Donc, on va dire que dans 15 ans, on verra les effets des mesures qu'a pris Payon. Mais le pauvre Payon, il sera à la retraite. Hollande, on apprendra son nom dans les livres d'histoire. Donc, il faut vraiment avoir de la volonté politique. Moi, j'espère pour lui. Et donc, il faut vraiment avoir de la volonté politique pour prendre des mesures dans ce domaine. Je prends cette analogie. Parce qu'il est évident que dans le domaine écologique, même les catastrophes certaines de demain ne sont pas forcément quelque chose qui nourrit de la décision politique de court terme. Bon, j'ai pas mis mon bonnet rouge aujourd'hui, mais vous voyez bien que l'écotaxe sont quelque chose qui, je veux dire, il y avait un consensus général, et tout d'un coup, les camionneurs nous disent « Ah ben non, pas suffisamment ». Et vous voyez bien à quel point les médias sur cette question ne disent jamais à quoi ces sommes allaient être affectées, et notamment au financement des transports collectifs. Alors, y compris les Bretons gagneraient aujourd'hui beaucoup à ce qu'une partie de leurs exportations agroalimentaires, que les chou-fleurs de l'Union coopérative Paimpol-Treillier partent en Allemagne sur des wagons plutôt que de faire 2000 km en camion. Donc on a là des vrais enjeux sur lesquels on voit bien que notre société a beaucoup de mal à voir clair. Les politiques, eux, sont à l'écoute de l'opinion, et la seule façon qu'on a de pousser les politiques à agir, c'est d'arriver, nous, par l'opinion publique, par les ONG, à raccourcir leur horizon en faisant des questions de long terme, des questions de court terme, faire des questions immédiates dans le débat politique. Je sais que nous sommes d'accord là-dessus. Mais le grand succès qu'a eu Nicolas Hulot en 2007, c'est d'avoir, avec son pacte écologique, de mettre dans le débat immédiat un débat sur l'écologie. Et bon, c'est sûr que le président Nicolas Sarkozy, on sait bien par son passé, de son histoire personnelle, était extrêmement intéressé par les questions écologiques. Mais en dépit de, au-delà de cet intérêt personnel, le fait qu'il ait organisé le Grenelle de l'environnement témoigne du fait que ça donnait quelque chose sur l'agenda politique de court terme, du fait de cette mobilisation de l'opinion. Ensuite, on peut épiloguer sur les conséquences de la Grenelle. On a quand même eu la RT 2012, on a quand même eu un certain nombre de choses qui étaient importantes par rapport à ce qu'était l'état antérieur. C'est évidemment celui qui a des lobbies, tout ça, il y a des trucs qui se dissolvent. Mais je le dis simplement, c'est que c'est ça qu'il faut recommencer, toujours remettre sur le métier, et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à faire bouger les politiques. Alors, l'autre facteur qui me paraît essentiel, alors là, je vais revenir à la partie économique, et j'ai encore un quart d'heure à peu près, c'est bon, oui.
On a une demi-heure.
Hein. Oui, non, mais on pourra mettre ce précédent entre les deux, il y a un quart d'heure de question.
Oui, si.
Pour revenir sur la question économique, un des acteurs majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est bien le système de prix. Le système de prix que renvoie notre société. Vous savez, quand on voit les économistes parler de la société actuelle, ou des prospectivistes, enfin vous voyez, tous les gens qui pérorent comme ça, comme je le fais aujourd'hui, c'est qu'ils disent, nous sommes rentrés dans l'économie de la connaissance, dans la civilisation du matériel, enfin, vous avez déjà entendu ça 300 fois. Mais il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. On n'a jamais été dans une civilisation aussi matérielle qu'aujourd'hui. En fait, la baisse des prix spectaculaires des produits industriels et des produits agricoles, permise par les gains de productivité et d'efficacité des modes de transformation, la faible quantité de travail qui est nécessaire pour fabriquer ces produits, fait que ce qu'expliquait déjà Forestier il y a 60 ans, ça continue à s'appliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous consommez des produits industriels, qu'ils soient produits en France ou qu'ils soient importés, alors il y a un effet délocalisation, mais en grande partie produits en France, nos modes de production sont tellement efficaces que de fait, ils coûtent pas cher par rapport aux services qui incorporent beaucoup de main-d'œuvre. Si bien que aujourd'hui, on est effectivement dans une économie de services, si on se passe du point de vue de la structure de l'emploi. Vous avez près de 80% des emplois qui sont dans le commerce, l'éducation, la santé, les soins, la culture, les loisirs, et puis le tourisme, le bâtiment et les services associés qui sont liés aussi à cette économie résidentielle. Et en fait, ça donne l'illusion que finalement le matériel a quasiment disparu. Mais en fait, quand on regarde le nombre de tonnes d'acier, de quantité d'énergie, toutes les choses qu'on consomme physiquement, on consomme beaucoup plus aujourd'hui, 50% de plus à peu près qu'il y a 30 ans. Donc nos sociétés, l'empreinte écologique, les conséquences sur l'état des ressources de notre mode de vie, dans cette société de services immatériels, n'ont jamais été aussi matérielles qu'aujourd'hui. Et ça, c'est lié au fait que le prix des ressources, le prix des matières premières, ne reflète absolument pas soit ce qu'on pourrait imaginer un coût de substitution pour les matières non renouvelables, soit un coût de renouvellement pour les matières renouvelables. Alors, en fait, si vous regardez par exemple les prix de l'énergie, vous voyez bien que le prix de l'énergie tend structurellement à être proche du coût d'extraction. C'est une analogie simple qui est que vous pouvez imaginer que le pétrole il serait dans une grande baignoire et le prix du pétrole, c'est pas le prix qu'il faut pour maintenir la baignoire remplie, c'est le prix qu'il faut pour acheter un seau, plonger le seau dans la baignoire et rentrer le seau à la maison. pas cher. Alors évidemment, quand la mémoire est vide et qu'on commence à racler, ça coûte un peu plus cher. On va passer de 20$ à 100$. Et puis le jour où il n'y a plus de pétrole, on se fout sur la gueule. Bon, ça. Mais le signal prix n'a jamais été un signal qui a permis de créer les conditions d'un renouvellement du stock de ressources. Alors, le prix des ressources en général, donc, on voit un signal extrêmement nul, et c'est une des questions qu'on va discuter aujourd'hui, notamment dans l'atelier, qui est une question centrale. Alors, le problème, c'est que le fait que nos systèmes de valorisation ne prennent pas en compte les coûts de destruction du capital naturel renouvelable, en termes de toutes ces externalités négatives des processus de production, fait qu'on a tendance à se dire, bon, on va mettre un prix à la nature, on va mettre un prix à tout ça, donc soit par des taxes, soit par l'organisation du marché de ressources rares, comme le marché du CO2, par exemple, qui ne fonctionne pas parce qu'on a surtout alloué trop de CO2 par rapport à ce qui était la consommation réelle, pour ne pas déplaire aux entreprises, mais il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'un marché de ce type fonctionne. Mais il ne faut pas non plus imaginer qu'il soit possible de mettre des prix à tout ce qui est naturel et que, en fait, on incorporerait au fond la contrainte écologique dans un calcul monétarisé qui permettrait de continuer finalement avec la même logique d'évaluation qu'auparavant. Notamment parce que, et on va y revenir ensuite quand on commencera à dire un mot d'introduction sur le débat du matin, notamment parce que vous avez des biens dont il n'est pas possible de calculer la valeur. C'est-à-dire la perte de la biodiversité, par exemple, on n'est pas capable d'évaluer la valeur. Parce que dès lors qu'on n'est pas capable de reproduire une espèce qui aurait disparu, et il en disparaît tous les jours, le prix de cette espèce, puisqu'elle est non substituable, devrait être infini. Donc, si un prix est infini, il casse évidemment toute possibilité de calcul. Alors, l'économiste, ce qu'il aime, c'est les calculs entre choses substituables. Bon, je n'ai pas beaucoup de travail ici, le travail est cher, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du capital à la place. On va mettre plus de machines parce qu'on a une main-d'œuvre trop chère. Et puis là, la main-d'œuvre n'est pas chère, donc on va mettre plus de main-d'œuvre et on économisera sur le capital. Et dans les deux cas, on arrive à une structure équilibrée. Mais penser que, ah ben là, j'ai plus beaucoup de nature parce que j'ai cassé toute ma nature, donc je vais investir plus en capital et plus en intelligence humaine pour substituer cette nature qui a disparu. Ce qui est le calcul de beaucoup d'économistes, y compris ceux qui nous disent des choses très intéressantes, comme Joseph Stiglitz, cette idée de substituabilité possible entre facteurs et entre le facteur naturel et le facteur intelligence humaine et l'investissement en capital est quelque chose qui trouve très rapidement sa limite dès lors que le capital naturel n'est pas substituable. Donc, un peu de prix peut mettre de la vertu dans le mécanisme économique, mais tout monétarisé a aussi des effets pervers. Alors, l'autre chose qui me paraît importante, c'est de rappeler un peu ce qu'il faudrait faire. Bon, quand même. Alors, ce qu'il faudrait faire, bon, je pense que là, je vais enfoncer vraiment des portes ouvertes. Bon. Okay. Bien, non, c'est bon, c'est bon. Non, parce que je me disais, je viens de fermer une centrale nucléaire dans le nouvel, et puis je sais. Non, ça marche encore. Non. Voilà. On va commencer par un des enjeux majeurs, c'est de promouvoir une alimentation et une agriculture qui soit réellement durable et au bénéfice de tous. Une des bonnes nouvelles de la situation, hein, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, c'est que la transition démographique s'est faite à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu craindre il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Maintenant, on ne désespère pas que la population du globe soit asymptotique à quelque chose entre 10 et 12 milliards d'habitants à l'horizon 2100. En espérant qu'il n'y ait pas de catastrophe qui provoque d'ici là d'autres problèmes. Et les spécialistes d'agroécologie ne désespèrent pas de pouvoir nourrir cette population à condition qu'on prenne très vite toutes les bonnes décisions. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais disons que c'est quelque chose qui n'est pas totalement impossible. Donc, la seconde chose, c'est évidemment réduire notre dépendance aux énergies fossiles, nucléaires, réinventer nos vies, nos modes de déplacement, pour ralentir le réchauffement climatique, imposer un recyclage généralisé, allonger la durée de vie des produits pour privilégier systématiquement la préservation des ressources au lieu du gaspillage pour aller dans le sens d'une économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est pas l'idée qu'on va pouvoir continuer à produire plein de Demlarbenz à Stuttgart, n'en déplaise aux dirigeants du bar de Württemberg actuel. C'est quand même l'idée qu'il va falloir surtout allonger la durée de vie des produits pour diminuer de toute façon l'ensemble des coûts qui sont liés à la fabrication. Vous savez que dans une voiture, la consommation d'énergie liée à sa production est quasiment équivalente à sa consommation d'énergie pendant son usage. C'est pour ça que les primes à la casse sont tous sauf écologiques, c'est d'abord un moyen de soutenir la production automobile. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il faut évidemment privilégier plutôt l'usage que la possession des biens, ça va dans le même sens, donc ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et on l'a déjà dit, privilégier la production des biens et services qui prennent d'autant plus de valeur que tout le monde en bénéficie, l'éducation, la santé, plutôt que les biens statutaires dont la seule fonction est d'affirmer sa supériorité à l'égard de ses semblables, dans les limites de ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'on a quand même le droit d'être plus beau que son voisin pour séduire la fille d'en face. Bon, alors, et réciproquement. Et donc, ensuite, il faudra évidemment décentraliser la production autant que faire se peut, en privilégiant notamment les circuits courts. Et autour de ça, il y a toutes les thématiques liées aux monnaies locales et complémentaires qui vont être un des ateliers de cet après-midi auxquels je vous invite à participer, beaucoup plus intéressant que les autres. Et il y a ensuite... il faut évidemment étendre, évidemment, pour y arriver, la démocratie à tous les niveaux, afin de civiliser l'économie, sans renoncer à vivre dans une société ouverte. Et derrière la question de la démocratie, il y a bien la question de l'évaluation de qu'est-ce qui est utile, de qu'est-ce que font les vraies richesses. Et c'est la question que vous avez soulevée, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. J'aimerais terminer d'abord pour dire que dans la lutte idéologique qu'on a aujourd'hui au cours, il faut se sortir de l'idée, l'esprit que le PIB, ça serait du solide, de l'objectif, et que les indicateurs de richesse, ça serait du pipeau, du relatif et du subjectif. Le PIB, il n'a d'objectivité que son mode de mesure. Et c'est comme ceux qui disent l'économie, la science économique est scientifique parce qu'elle utilise des modèles mathématiques. Mais le langage mathématique est un outil. Oui, on est d'accord, c'est pas le cas. Bon. Le langage mathématique est un outil qui est un outil de rigueur, mais en même temps, comme on dit, garbage in, garbage out, si vous mettez des déchets à l'intérieur du modèle, vous aurez aussi des déchets à la sortie. Donc les questions de fond, c'est bien, parce que qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure, etc. Donc le PIB lui-même est plein de subjectivité, parce que le PIB ne nous dit rien des inégalités. Le PIB ne nous dit rien des conditions dans lesquelles il croit ou il décroît. Dans une société très inégalitaire en termes de revenus, de distribution des revenus, il va y avoir une demande solvable pour des biens à l'utilité douteuse. Bon, même si j'ai tenu un discours non répressif sur la consommation, en même temps, le fait qu'on produise des montres qui valent 100 000 euros, regardez les suppléments des week-ends du quotidien qui, face à la crise de la presse, sont désespérément à la recherche de publicité, toutes ces pubs pour des montres à 100 000 euros, mais en quoi c'est vraiment utile pour arriver à l'heure à son boulot par rapport à une watch uniquement, regarde, une montre à 100 000 euros, pour prendre une watch, etc. Bon, donc, message adressé à Nicolas Sarkozy et Julien Drey. Bon, donc, comme ça, je ne fais pas des minutes. Alors, donc, on est clairement dans une situation où, il faut dire, le PIB n'est pas un bon indicateur, et il n'est pas non plus un bon indicateur de soutenabilité économique. Parce que le PIB n'est même pas un compte d'exploitation au sens du compte d'exploitation d'une entreprise. On dit souvent, le PIB, c'est les flux, ça ne reprend pas en compte le capital naturel qui relève d'un bilan. C'est vrai, on n'a pas de compte de patrimoine dans le PIB. Mais on n'est même pas dans un compte d'exploitation d'entreprise. Parce que dans un compte d'exploitation d'entreprise, qu'est-ce qu'il y a Il y a les amortissements. On sait que cette année, pour produire tant de journaux. Moi, j'ai eu besoin d'un équipement informatique, j'ai eu besoin de toutes choses, et je compte dans mes coûts une partie de ce qu'il faudra payer pour racheter des ordinateurs le jour où mes ordinateurs seront obsolètes, ce qu'on appelle les amortissements. Si bien on prend en compte la dégradation du capital dans une entreprise, dans l'évaluation de son résultat. Quand vous regardez le PIB, vous ne comptez que les flux de recettes. Vous ne comptez pas la destruction de la partie du capital qui vous a permis de produire ce flux de recettes.
On fait peut-être un point sur le PIB tout de suite,
Philippe. Non, mais je m'arrête là. Et donc, c'est ce qu'on va discuter après dans la préparation suivante. Mais donc, on est dans une situation où, de fait, j'insiste là-dessus pour dire que, y compris sur le plan économique, ce que montre très bien Nicolas Stern, c'est ce qui fait que sur l'étude de Nicolas Stern, l'ancien chef économique de la Banque mondiale, a eu beaucoup de retentissement, c'est que Nicolas Stern, c'est pas un chevelu écolo retour à la bougie. C'est l'ancien chef économique de la Banque mondiale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on continue comme ça, on est en train de détruire les bases matérielles de la croissance économique de demain. Et donc, prendre en compte aujourd'hui les contraintes environnementales pour rendre l'économie réellement soutenable, c'est la condition pour que l'économie puisse exister encore demain. Donc, ce n'est pas économie contre écologie. On est dans un système aujourd'hui qui, à la fois, détruit la nature, mais détruit aussi les bases mêmes de l'économie comme moyen de production, de renouvellement de nos conditions matérielles d'existence. Ça, c'est très important de le souligner, parce que c'est pas seulement il y aurait les gentils, idéalistes, contre les méchants réalistes. Le vrai réalisme, il est du côté des gentils. Et les méchants, ils sont en train de se suicider. Donc c'est leur intérêt même de changer de modèle. Alors ensuite, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est que de fait, ce qu'on constate, c'est ce qu'on va voir, la mesure du bien-être, et là je reprends ce que dit tout à l'heure l'apôtre, on est clairement dans une situation où on voit bien qu'il y a une certaine déconnexion entre l'amélioration de la qualité de vie individuelle et collective et la croissance économique. Donc on va y revenir dans la table ronde qui va suivre, donc je ne m'étends pas là-dessus. Simplement pour dire deux choses, c'est que, effectivement, le débat qu'on a très souvent entre croissance et décroissance me paraît un peu un débat sans objet. Dans le sens que, il a une vérité d'abord, par rapport à tous ceux qui voient dans l'écologie le moyen à droit de relancer la croissance par de nouveaux investissements dans des technologies durables, etc. Donc, il y a un côté, on va réconcilier le nécessaire et le souhaitable sur le plan économique, qui m'énerve un peu parce qu'il est très utilitariste. Mais, en fait, au-delà de ça, on peut faire deux choses. Et on peut constater qu'historiquement, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de découplage réel. C'est-à-dire que partout où la croissance a continué, même si on a eu des gains d'efficacité économique en termes d'intensité énergétique du PIB, etc., partout où il y a de la croissance forte, il y a toujours peut-être une moindre croissance des dépenses énergie, peut-être une moindre croissance de la destruction des ressources, mais ça continue à croître. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être sur une logique où on aurait une croissance qui continue et des consommations qui baissent. Ça, on ne sait pas faire pour l'instant. Et ça, c'est quand même un argument extrêmement fort pour dire qu'on ne peut pas continuer à croître. Pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est impossible pour l'avenir? Est-ce que ça veut dire que tout doit décroître? Non. Je pense que si on apprend tous la musique, on peut tous apprendre la musique sans faire croître le PIB. Sans continuer à faire croître certaines choses. Il y a plein de consommations. Comme on peut dire, en gros, la croissance, c'est quand même le fruit de ressources appliquées et l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine existe en quantité limitée et en soi, elle ne consomme pas d'énergie. Par la connerie humaine également, il faut le dire avant que quelqu'un me fasse remarquer, et c'est ce qui fait que l'intérêt de l'existence, c'est que le match entre l'intelligence et la connerie ne sera jamais terminé. Bon. Mais, bon, je vais mettre des vitesses avant. Mais, c'est ce qui donne des raisons d'espérer. Mais, tout simplement, il faut. La question est de savoir si on arrive à reconstruire une économie qui soit d'abord au service des besoins dans un cadre soutenable, et ensuite on verra s'il y a encore des statisticiens à l'INSEE dans un recoin qui ont envie de compter combien ça fait en termes de PIB, on verra si le PIB s'accroît ou s'il ne s'accroît pas. Mais le vrai débat, c'est comment est-ce qu'on réoriente l'activité économique vers la satisfaction sur un mode soutenable des besoins sociaux dans une économie plus à l'écoute des vrais besoins des gens. Et c'est en ça que les nouveaux systèmes d'indicateurs sont extrêmement utiles. Et donc, terminer là-dessus, c'est que le message, là, j'ai été extrêmement heureux d'écouter la conclusion du message de Jean-Patrick Masson, parce qu'il a terminé exactement par ce sur quoi je souhaitais terminer. Non, mais c'est bien qu'on soit de plus en plus nombreux à penser comme ça. C'est qu'effectivement, on peut vivre mieux et consommer et produire autrement. Et c'est de toute façon la condition politique indispensable qu'on aille dans le sens d'une transition écologique, parce qu'on n'arrivera pas à vendre ce message de transition écologique sans rendre désirable par tous. C'est clair. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Même plus que de poursuivre dans la direction actuelle fournit forcément un bien-être. Effectivement, on verra d'ailleurs dans les indicateurs de bien-être, il y a souvent notamment le rapport au temps qui ressort, et on voit bien que les conditions qu'on nous propose aujourd'hui ne sont pas forcément toujours propices au bonheur, même si c'est un élément difficile à définir. Peut-être des demandes ou des réactions aux propos de Philippe Frémont, ça vous a peut-être fait réfléchir à certains points que vous pourriez mettre en partage. Il y a des micros disponibles dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ou témoigner sur un des aspects développés par Philippe Frémont? J'ai une remarque à vous faire, Philippe Frémont, en attendant que quelqu'un décide. Voilà, madame, si vous voulez ici une demande de parole, c'est vous avez donné deux exemples marquants. Il y a cette image de la baignoire qui se vide, cette baignoire de pétrole. Et puis il y a un autre aspect où vous releviez, effectivement, dans les comptabilités, il n'y a pas forcément. On ne prend pas en compte le patrimoine. On peut quand même souligner l'activité de certains grands groupes aujourd'hui. On entend beaucoup parler de Kering qui se libère de la redoute, qui cherche à le faire en ce moment. Il faut savoir qu'ils ont développé des services de plusieurs personnes. Il y a à peu près 8 personnes qui remontent toutes les filières d'approvisionnement de l'entreprise. Et ils sont dans le luxe et dans le sport pour aller voir justement dès la racine, dès la culture des plantes, quelles seront les ressources de demain. Donc cette inquiétude sur les ressources et la question de ce patrimoine qui se dégrade est quand même une question qui est prise en compte, y compris par les grands groupes qui cherchent à savoir, à remonter leur filière pour voir s'ils vont essayer de regarder pénurie ou pas, ce qui est ou une bonne chose ou une chose inquiétante. Alors, en réaction à ce que vous disiez, oui, madame.
Oui, ça marche, d'accord. Chantal Doucard, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts. Je voulais réagir sur deux points. D'abord sur la question de l'Allemagne et de sa sortie du nucléaire, avec les conséquences dont on parle beaucoup d'augmentation des gaz à effet de serre, que beaucoup, et vous semblez partager cette opinion, attribuent au redémarrage de centrales à charbon. D'autres personnes pensent plutôt que c'est le gaz qui est sollicité par nos voisins allemands, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même si bien sûr ça participe aussi à l'émission de gaz à effet de serre. Donc je lance quand même cette question. Et puis je voulais revenir aussi sur un point important que vous avez évoqué, évidemment, dans les facteurs qui bloquent l'évolution vers le monde désirable, souhaitable, auquel je pense nous aspirons tous. Quand vous parlez de l'horizon temporel des décideurs politiques, je pense que c'est effectivement un facteur extrêmement important, mais je voudrais insister aussi sur le paradoxe qui fait que, comme vous l'avez souligné, un certain nombre de collectivités à tous les niveaux prennent des mesures intéressantes, des agendas 21, je dis bien à tous les niveaux, c'est-à-dire depuis l'échelon le plus local jusque quelquefois à l'échelon national, l'affaire de l'écotaxe en est un petit épisode. Le problème aussi, c'est que ces décideurs politiques et ces collectivités n'affichent pas toujours, et ça c'est vrai je pense surtout au niveau national, n'affichent pas toujours le discours cohérent et suffisamment percutant pour expliquer la gravité de la situation et les raisons qui les poussent à prendre telle ou telle mesure. Si, vous avez parlé des médias, mais il ne faut pas oublier que les médias, très souvent quand même, ne font que reproduire le discours général qui leur est transmis. Alors si, au moment où on a voulu, ou fait semblant de vouloir, je ne sais pas, imposer cette écotaxe. Il y avait eu vraiment des interventions nationales du chef de l'État, du chef du gouvernement, pour en expliquer les raisons, pour en expliquer les modalités et l'importance. Et ce que je dis là à propos de l'écotaxe, c'est vrai dans tous les domaines. Je pense que ça changerait les choses et qu'effectivement, la façon de voir de la plupart de nos citoyens pourrait évoluer. Parce qu'il n'y a que ça, effectivement, qui pourra permettre une évolution globale et assez rapide. Merci.
Merci, Philippe Frémaux. Alors, il y a pas mal d'aspects, on reviendra peut-être sur les aspects environnementaux que vous avez après, sur lesquels l'Allemagne, sur peut-être effectivement la communication déficiente.
Non, mais sur l'Allemagne. Sur l'Allemagne, non, mais, je veux dire, les grands énergéticiens européens font un lobbying intense aujourd'hui, justement, précisément parce qu'ils sont dans une situation où ils ferment des centrales au gaz. Parce que, de fait, elles ne trouvent plus leur débouché sur le marché européen de l'électricité. Il y a plusieurs papiers bien documentés dans les Échos sur ce sujet, où on voyait bien Mestralet qui est là à s'affoler parce qu'il n'arrive plus à gagner de l'argent avec ses centrales au gaz. Et qui est lié à la fois à la montée en puissance du renouvelable et en même temps au très bas coût du charbon. Et ça se répercute d'ailleurs sur l'activité d'entreprises comme Alstom, qui sont parmi les leaders mondiaux de la fabrication de turbines à gaz à cycle combiné. Alors, sur l'horizon des décideurs, bon, je suis quand même très content d'entendre une élue dire que tout n'est pas de la faute des médias. Hein, bon. Encore que je pense qu'ils ont. Bon, je parle de responsabilité également, parce qu'ils ne font pas l'effort minimum d'enquête pour. Au-delà de l'écume des faits, pour regarder ce qu'il y a derrière, l'accélération du rythme de l'information est un facteur très aggravant de l'état de l'opinion sur ces questions. La plupart des questions auxquelles elle est confrontée sur le plan environnemental sont des questions structurelles lourdes, qui ne changent pas. Ça ne fait pas une information de dire que la température va augmenter de temps d'ici la fin du siècle. Il faut qu'il y ait un changement pour que ça devienne une information. Ou alors il faudrait. Je veux dire, je me souviens d'avoir fait une publicité un temps pour Affaires économiques, pour dire le journal qui vous parle des informations, des choses qui ne changent pas. Il va assez vite. Il ne s'agit pas de parler seulement de ce qui change, il faut aussi parler de ce qui ne change pas.
Et je ne sais pas si c'est un argument, enfin un débat sur les médias, mais je ne sais pas si c'est un argument suffisant. Quand on vient d'un journal de 20h, maintenant, il n'y a pas plus 7 minutes d'actualité sur des faits nouveaux. Le reste, c'est du magazine. C'est typiquement ce qu'on disait, ne pas entrer auparavant dans l'actualité.
Oui, enfin, alors, est-ce que c'est un argument. Il y avait 7 ou 8 minutes de faits divers d'abord, et ensuite, parfois, un peu d'actualité.
Il y a des magazines qui ne sont pas rattachés à des actualités. Les sujets sont faits plusieurs semaines avant, oui. C'est
bon. Bon. Mais le.
Donc, si on voulait, on peut inclure ces
événements
magazines dans les.
Si on voulait, on pourrait.
Il n'y a rien qui techniquement.
La réalité, c'est que de fait, c'est plutôt parfois sur des émissions de seconde partie de soirée. Et encore. Bon, l'autre chose qui paraît importante par ce que vous avez dit, c'est que. C'est qu'on peut se poser la question de savoir si une partie des décideurs politiques y croient vraiment. Et ça. C'est vrai que le déficit d'explication qu'on a reflète aussi le fait qu'une partie de la classe politique, et là je sors des responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, mais on peut penser qu'une partie de la classe politique d'aujourd'hui, même au plus haut niveau de l'État, n'a pas des convictions sur le plan écologique qui sont très ancrées et qui sont plus attachées à une vision de relance économique à court terme. Bon, plutôt que de penser à ces grandes questions structurelles. Mais on pourrait dire ça de beaucoup de partis en même temps, parce qu'il y a aussi beaucoup de symbolique de la mesure. Regardez, puisque vous êtes conseillère à l'ELV, à quel point je veux dire, la difficulté qu'a aujourd'hui ce parti à avoir une parole sur ces questions qui ne soit pas une parole punitive sur le plan fiscal. Ce que les gens entendent, c'est un discours punitif sur le plan fiscal, et le discours sur la partie positive qui peut aller avec, et également très, très mal entendu par le public.
Dans le domaine des déchets.
Pas d'interrogation sur la façon dont on communique.
Dans le domaine des déchets, notamment, il y a un grand nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont convaincues des améliorations apportées, qui sont en train de chercher justement l'incitatif au lieu d'avoir une taxe supplémentaire, de pouvoir libérer de la capacité
d'investissement. Oui, alors, sur le comportement des entreprises, vous avez au sein des entreprises différents types de comportements. Vous avez des entreprises qui ont un intérêt évident à ce qu'on aille vers, par exemple, des économies d'énergie. Quand vous êtes Delta d'Or ou Schneider Electric, vous fabriquez des régulateurs thermiques, quand vous êtes Saint-Gobain, vous fabriquez de l'isolant, etc. La rénovation thermique du bâtiment, vous êtes pour. Ça va vous faire du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est clair. Par contre, on peut penser que les compagnies pétrolières américaines ont un peu tendance ces dernières années à financer massivement les officines qui nous expliquent que l'effet de serre, ça n'existe pas, que le réchauffement climatique, c'est une invention de savants fous, et que tout ça, c'est des pipeaux, etc. Donc, on voit bien que selon le positionnement stratégique des entreprises, la vertu est souvent corrélée aux intérêts. Alors, ensuite, vous avez des entreprises qui ne sont pas uniquement dans la dictature d'une exporteur, et se pose aussi la question de leur avenir à plus long terme et intègre dans leur horizon stratégique les menaces qu'on peut avoir. Donc, si vous êtes Michelin et que vous découvrez que le pétrole va manquer et que du coup ça va renchérir le prix du caoutchouc synthétique, vous posez la question de savoir comment vous allez fabriquer vos pneus plus tard. Bon, et on peut aussi citer différentes entreprises qui s'engagent dans l'économie de fonctionnalité. Le problème, c'est que j'en suis à mon 4000e article sur Xerox, etc. Et pour l'instant, j'aimerais plutôt avoir un article qui me parle de 4000 entreprises. Oui. Je ne peux pas non plus survendre, parce que la dynamique générale du système, en l'absence de mesures de régulation publique qui donnent des signaux prix ou des signaux normatifs qui influent sur le comportement des entreprises, font que les entreprises, et ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, les jugements de l'entreprise, c'est d'abord un comportement empirique. Donc, ensuite, elles peuvent, dans le cadre d'un comportement empirique, si vous êtes par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un de Cemex dans la salle, et qui, j'ai bien compris, plutôt granulat que fabrication de ciment, mais ce qui fait que les cimenteries, qui sont parmi les plus gros consommateurs d'énergie par nature dans leur procédé de fabrication, sont incités à faire des économies, c'est d'abord que effectivement, le coût du pétrole dans leur exploitation est colossal. Donc, si elles arrivent en même temps à recycler en valorisation énergétique des déchets qui jusque-là étaient mis à la décharge, tout le monde y gagne, aussi bien eux que la société dans son ensemble.
Moi, je parlais d'entreprises aussi en mutation, dans les déchets qui peuvent passer d'un système à un autre. Effectivement, ces systèmes de taxation, quelquefois, peuvent étouffer les capacités de mutation, même si elles sont volontaires pour le faire. Je ne parlais pas des entreprises du pétrole qui ont intérêt à afficher, mais des entreprises qui sont dans une situation intermédiaire et qui ont besoin de faire une mutation. Et cette mutation, il va falloir pouvoir la financer. Donc, si elles sont taxées, elles ont des difficultés à pouvoir.
Oui, enfin, les entreprises, qu'est-ce que vous voulez Désolé, moi je suis assez libéral. Les entreprises, elles réagissent au système de prix. Celles qui sont adaptées au nouveau système de prix qui rencontre de la réalité des coûts, elles prospèrent. Et celles qui ne sont pas adaptées, elles disparaissent. Et ensuite, la question, c'est de savoir si notre société est capable de mettre en place des systèmes de régulation du marché du travail, de l'accès des gens aux revenus, qui font qu'effectivement, ces mutations sont acceptables socialement et peuvent même être vécues positivement. On produit aujourd'hui. Il faut quand même se souvenir, moi je suis vieux, hein, donc je me souviens quand même que Mitterrand a été élu en 1981 en nous expliquant que grâce à lui, la production d'acier allait augmenter 50%. Bon, et il a quand même ensuite fermé une grande partie de la sidérurgie. Pourquoi? Parce que quand vous fabriquez une bagnole aujourd'hui, je suis désolé, les taux d'acier sont beaucoup plus minces qu'elles l'ont été hier, parce que la qualité de l'acier s'est améliorée de manière spectaculaire. Bon, voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question ici
Oui, Patrick Guéret, ingénieur spécialiste des économies d'énergie. Je voulais intervenir d'abord sur le cas allemand, peut-être un éclairage complémentaire. C'est qu'en fait, très rapidement, vous avez dit que les énergies renouvelables contribuaient à la sortie du nucléaire et pas à la réduction des fossiles.
Non, elle a contribué à la réduction des fossiles.
D'accord,
mais dans le contexte de la fermeture des centrales nucléaires Et dans un contexte où en plus, le réseau allemand fait qu'ils ne sont pas capables de valoriser à l'instant T la production renouvelable.
C'est-à-dire oui,
vous avez des éoliennes qui aujourd'hui tournent à produire de l'électricité qui n'est pas utilisée parce qu'il n'y a pas de réseau pour la porter à l'instant T.
Ça commence à arriver, il y a plein de petits problèmes. Je ne vous fais pas de procès.
Je dis simplement que c'est une question compliquée.
Oui, absolument, c'est une question compliquée. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, c'est un effort qui est apporté. On pourrait dire que le développement des énergies renouvelables, pour l'instant, sert essentiellement à compenser l'arrêt du nucléaire. Alors, est-ce que c'est un choix qu'il aurait fallu faire ou pas, je ne positionne pas là-dessus, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu plus que ça. Et non seulement ça compense la fermeture des 7 réacteurs nucléaires, mais ça a permis déjà, en valeur totale des fossiles, de baisser en Allemagne. Là-dessus, il n'y a pas seulement les énergies renouvelables, il y a aussi la contribution de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique, qui sont deux concepts très importants, qu'on regroupe parfois dans un concept qui est celui des mégawatts, les watts médiatiques, les watts économisés. Donc je voulais un peu vous interroger là-dessus, dans votre panorama que vous avez brossé, là, très intéressant. Comment est-ce que vous prenez en compte ces choses-là qui ne sont pas très faciles à appréhender parce que il faut soustraire, par rapport au PIB, est-ce qu'on est capable de soustraire en comptant ben ça, c'est du gagner, même si ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compteur d'économie d'énergie, on est obligé de comparer avec ce qui serait advenu si on n'avait pas fait des économies d'énergie. C'est un petit peu compliqué. Et voilà, comment ça rentre dans le panorama que vous avez pensé? Merci.
Oui, ma remarque était simplement de faire remarquer que bon, je suis parti ensuite sur le sujet en Allemagne, mais ma remarque était simplement de faire observer que tous les discours qu'on a tenus depuis des décennies sur le peak oil, voyez, sur le fait qu'on avait atteint un stade où on aurait pu assez de pétrole, etc., on voit bien que le peak oil, d'année en année, il a poussé 5 ans. Donc voilà. Donc on sait bien qu'un jour il n'y en aura plus. Hein, donc on finira par avoir raison, mais vous savez, c'est comme le moment du retournement du dollar, on sait qu'il y aura un retournement du dollar, mais on n'est pas capable de dire quand. Donc, l'exploitation massive de schiste aux États-Unis a eu de fait pour effet de déstabiliser les prix mondiaux d'énergie, dans un sens qui fait que la principale raison qui nous amène à économiser l'énergie n'est pas le facteur prix, mais le facteur... émissions de CO2 et menaces sur le changement climatique, C'était uniquement ça, mon problème. Donc, l'idée de taxer l'énergie... La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il nous faut taxer l'énergie parce que ça donne un bon signal prix pour que les acteurs soient incités à s'engager dans des mécanismes vertueux, justement, de l'économie d'énergie. Mais que, effectivement, si notre industrie chimique, ici, va payer son gaz... 3 fois plus cher qu'aux États-Unis, il ne faudra pas s'étonner que toutes les usines ferment et qu'elles partent toutes s'installer à Houston et au Louisiane. Voilà, c'est les difficultés auxquelles on est confronté. C'était uniquement ça mon propos.
Juste peut-être une précision, c'est en fait l'Agence internationale de l'énergie, il y a 2 ans, 3 ans, a expliqué qu'on avait dépassé le maximum de production pour les pétroles conventionnels vers la fin des années 2000. Donc effectivement, avec l'apparition des pétroles non conventionnels, des gaz de schiste, etc., on a réussi à repousser la limite, mais on voit bien qu'on est quand même maintenant très proche du moment où ça va basculer.
Je ne veux pas plaider contre mon camp, mais je veux dire, vous vous souvenez de ce qu'on écrivait il y a 20 ans là-dessus. C'est vrai que du coup, maintenant, on découvre qu'on arrive à exploiter des sables bitumineux avec des effets absolument merveilleux sur l'environnement de l'Alberta, etc. Comme chacun sait. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dépense pratiquement 1% du PIB mondial, ne serait-ce à la production d'énergie.
Oui, vous avez pas vu. Bonjour.
Oui, André Droit, donc ingénieur retraité aujourd'hui. Je m'intéresse depuis 2 ans, disons, à tout ce qui est écologie, parce qu'auparavant, je faisais confiance un peu à tout notre système. Ma question, je voudrais revenir sur les 2 points de votre première intervention. Vous avez parlé de cette dualité entre, disons, les entreprises et les salariés. D'un côté, vous avez donc les entreprises qui cherchent à avoir plus de rentabilité, et ça je le comprends bien, parce que moi j'étais ingénieur, je sais ce que c'est. D'un autre côté, les salariés qui veulent de plus en plus de boulot, et ça je sais aussi, puisque moi j'étais avec les salariés, on se battait aussi pour avoir de plus en plus de boulot, voilà. Et cette dualité gauche, disons, se traduit d'un point de vue politique par un axe gauche-droite, qu'on peut qualifier en quelque sorte de l'axe productiviste. Et donc, au point de vue politique, on est vraiment très, très, très bien servi de ce point de vue-là, d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'on se bagarre entre gauche et droite, alors que pendant ce temps-là, eh ben, y a des problèmes quand même qui sont des problèmes de la planète. Donc là, je fais référence aussi à mes références d'astronomes. Je peux vous dire que les planètes extrasolaires, elles sont extrasolaires. Faut pas rêver. On n'ira jamais ailleurs. On est condamné à rester ici. Vous êtes né ici. Vous vivrez ici. Point.
Bon, on est pas mal ici en même temps. Voilà.
Alors, pour en venir, on est dans cet axe productiviste.
On parle de ce soleil qui va finir par s'éteindre dans quelques milliards d'années.
Oui, mais enfin, dans le même
temps. On peut penser que, vu la capacité des hommes, on arrivera à détruire tout ça bien avant
que le soleil puisse s'éteindre, bien sûr.
Alors, ma question,
c'est votre optimisme.
C'est comment sortir de cet axe qu'on a bien marqué, qui est l'axe productiviste, pour trouver peut-être un autre axe qui serait, d'un côté, satisfaire les besoins sociaux, comme tout être humain, disons, sur cette planète, et un être humain parmi d'autres, peut-être de passage sur cette planète, comment faire pour satisfaire au mieux les besoins sur cette planète, nos besoins, et, disons, prendre en compte le fait qu'on est sur un vaisseau spatial, parce que c'est pas arrivé, Star Trek et Enterprise, c'était bien au cinéma. Ça n'existe pas.
Alors, on va mettre au débat, si vous voulez bien. On va peut-être passer à l'étape suivante, parce qu'on a parlé un petit peu.
Je vais très bon. Je vais dire un petit mot par rapport à ce que le monsieur, qui faisait allusion au scénario mégawatt. Parce que, bon, il se trouve que moi, je suis aussi dans une petite entreprise qui a besoin de croissance pour exister. Et en particulier, je pense qu'il y a un vrai débat aujourd'hui, dans le contexte actuel, sur les effets de la transition écologique sur le volume de la production et sur l'emploi. Et on ne peut pas proposer quelque chose aujourd'hui sans dire tout de suite que ça va créer des emplois. On vous dit on va faire de la rénovation thermique du bâtiment, ça va être 1 million d'emplois, etc. On mélange évidemment toujours tout ce qui sont les créations d'emplois à brut et ce qui aurait un effet final sur l'emploi, parce que si les gens investissent dans la rénovation thermique et que au lieu d'aller au restaurant,
ils
achètent, bon, ben, il y aura aussi peut-être moins d'emplois dans leur projet de restauration. Donc la question, c'est quelle est la part de ce qui est investi dans des productions qui sont localisées sur le territoire. Il y a plein d'effets qui font qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui si la transition écologique aura un effet positif ou négatif sur l'emploi. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que c'est l'occasion de se reposer les questions fondamentales par laquelle j'ai commencé mon exposé. Quand j'ai dit, au cours des deux derniers siècles, on a pu travailler en gros 3 fois moins au cours de notre vie active, on a consommé beaucoup plus, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de consommer moins de biens matériels, produire plus pour satisfaire les besoins qui concourent vraiment au bien-être des personnes, et peut-être également en renouant avec la tendance historique à la réduction du temps de travail contraint, avec ce qui veut dire aussi peut-être plus de place pour le travail bénévole, pour le travail de proximité, pour les liens d'entraide non marchands qui peuvent se faire dans l'espace de vie sociale de proximité.
Alors, merci beaucoup pour ces échanges. Je vous propose.
Tout ça est très bien développé donc dans cette petite brochure qui est vraiment intéressante.
Sachant que vous avez déjà une brochure qui est très intéressante, qui s'appelle La richesse autrement, mise à votre disposition dans les.
Ça, c'est une production du Forum pour d'autres indicateurs de richesse.
Voilà.
Qui vont d'ailleurs, donc deux responsables vont participer à la table ronde
qui commence maintenant et on va se concentrer effectivement sur le sujet.